Bonjour Tati, bon matin, mais pour toi bon après-midi. Bonjour à la belle-mère, bonjour à Jean-Gilbert et à vos amis. J'espère que vous allez bien ce jeudi 16 décembre 2021. Bonjour Marie-André, bonjour à Farley, coucou Farley. Leur chaude journée aujourd'hui, il va faire 12 degrés ici à Montréal, 12 ou 13 même. À 12 jours même pas, à 8 jours. À 8 jours de Noël, 12 degrés. C'est complètement absurde. Donc un peu de pluie aujourd'hui, mais 12-13 degrés. Bonjour Immaculée, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien, ma sœur. Alors aujourd'hui, on poursuit notre étude dans Romains au chapitre Yann, tu apparais comme Église des apôtres de Jésus-Christ. Je me demandais qui venait de mettre un commentaire comme ça. Yann est aussi un administrateur de notre page Facebook. Que Dieu te bénisse, Yann. Et bien entendu, bonjour à la famille et à la toute dernière addition à la petite famille. Bonjour Florie, bonjour Louis, bonjour mon viejito et ma viejita. Bonjour Yolaine. Que Dios me la bendiga, hermana Flori. C'est très gentil, Marie-André. Soyez bénie. Bonjour la belle-mère. Qu'est-ce qui était absurde en 92? En 92, il y a eu de la neige le 20 décembre. C'était absurde jusqu'au 20 décembre. Alors, si c'est ça que vous voulez dire, je suis d'accord avec vous. Mais le 20 décembre, il y a eu une bonne bordée qui est tombée. Bonjour Thérèse. Salut Guy, Dieu te bénisse. Nous n'étions pas nombreux hier pour l'étude biblique à l'église. Juste avant l'étude biblique, il y a eu cette chute de verglas, de pluie verglaçante, de neige mouillée, toute l'aide. Donc, plusieurs ne se sont pas aventurés sur les routes, vous avez bien fait. Mais ce n'était pas très glissant en fait. Les trottoirs le sont probablement ce matin, mais les rues n'étaient pas nécessairement glissantes. En tout cas, les grosses artères n'était pas glissante. Marie-Marthe, bonjour. Bonjour à Marjo, si elle est avec toi. J'ai quand même eu le temps, en rentrant à la maison vers 10 heures, d'aller pelleter la neige qu'il y avait. Donc mon aire de stationnement ou mon parking est tout beau ce matin. J'avais surtout peur que ça glisse à la fin de la nuit, donc c'est pour ça que j'ai pelleté, sachant que de toute manière aujourd'hui tout va fondre. Donc, on vous rappelle pour les inscriptions pour assister à l'assemblée de dimanche en présentiel. Vous avez jusqu'à demain midi pour vous inscrire par courriel ou par message téléphonique. Myriam, Donald, bonjour. Rosie, André, bonjour. Yolaine, le verglas en soi est terminé. La vie de verglas a été retirée il y a environ... probablement 1h30 déjà. Vers 7h, il n'y avait plus de verglas. Même quand on est parti à l'église, au travail de Daphné, vers 6h, il n'y avait déjà plus de verglas qui tombait. C'était une espèce de brume. Par contre, effectivement, les petites rues et les intersections pourraient être problématiques un peu. Mais sinon, il n'y a pas de verglas qui tombe actuellement. Bonjour Bernadette. Hermana Susanna, Yola Endea. Bonjour Jude. Bonjour à Caridad aussi. Rachel, bonjour. Et bonjour aux sœurs qui sont avec toi. La sœur Mona, la sœur Ocilia, la sœur Chantal. Bien le bonjour. Alors, nous allons débuter par la prière, puis on lira le texte de cette semaine. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes pour débuter adéquatement la journée en regardant et en recevant de ta part ce que tu as préparé pour nous dans ta parole. Nous prions que tu ouvres notre entendement, notre pensée, notre réflexion sur toutes les merveilles que tu as pour nous. Que ta grâce, Seigneur, nous soit accordée, que ton intelligence, ta connaissance, ta science nous soit accordée, Seigneur, en toutes choses, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le texte de cette semaine dans Romains au chapitre 5, les versets 1 à 5. Romains 5, du verset 1. au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et je relis les versets importants pour nous, c'est donc les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tout au long de la semaine, on a pris le temps d'approfondir l'enseignement du pasteur Hannibal qui nous a été prodigué dimanche dernier lors de notre culte, qui était intitulé Les bénéfices de la justification. Alors, quels étaient ces bénéfices au fait d'être racheté et sauvé par la mort et la résurrection de Jésus? On en a soulevé quatre qui étaient dans les versets 1 à 2. Le pasteur Hannibal nous a parlé du fait qu'on ait maintenant la paix avec Dieu comme premier bénéfice, à travers, bien entendu, la mort de Jésus et sa résurrection. Deuxièmement, que nous ayons accès à la grâce de Dieu. Troisièmement, que nous puissions demeurer fermes dans cette grâce et dans cette bénédiction et dans cette justification. Et enfin, que nous ayons l'espérance de la gloire de Dieu, donc l'espérance d'une vie éternelle dans la présence ineffable de Dieu. Alors ça, c'était les quatre bénéfices au fait d'être justifié. Durant la semaine, on a continué le passage qui nous avait été donné en étudiant les versets 3 et 4, où on a parlé davantage des conséquences de la justification, et particulièrement par rapport à l'affliction, par rapport à notre attitude face à l'affliction. Paul va dire au verset 3, et c'était ce qu'on étudiait lundi, « Nous nous glorifions des afflictions. » Non pas d'être masochiste et puis faire preuve d'ascétisme où on se flagelle, on se fait mal dans le but d'obtenir une grâce de la part de Dieu, d'obtenir un meilleur jugement de Dieu à notre égard. Si nous souffrons assez, alors Dieu nous aime davantage. C'est pas biblique, cette pensée-là. Cette pensée-là, ça serait réduire en fait la grâce de Dieu à un mérite personnel, à des actions personnelles, alors que la grâce de Dieu se mérite par la foi. La grâce est un cadeau gratuit de la part de Dieu. Alors, on a vu ce que voulait dire se glorifier des afflictions. Premièrement, voir que les afflictions sont une gloire. C'est une gloire, c'est un honneur de pouvoir subir des outrages pour Jésus, subir des outrages pour notre Seigneur. La Bible va dire dans Hébreux 11, lorsqu'on va nous parler des croyants martyrs, des chrétiens martyrs, Dieu va avoir cette phrase en disant que Dieu n'avait pas honte d'être appelé leur Dieu et que ces chrétiens n'étaient pas dignes, ou la terre n'était pas digne de les recevoir. Donc, n'était pas digne d'avoir de tels ressortissants sur son sol. Donc, un honneur à subir les outrages de Dieu. Deuxièmement, gloire voulait dire aussi exploser ou explosion, éclatement. Donc, c'était une occasion de transformation. On a vu que les tribulations, les afflictions sont ceux qui modèlent le plus, ou sont les choses qui modèlent le plus notre existence et qui nous amène au plus grand changement. Enfin, lorsqu'on parle d'éclater ou exploser, on parle aussi de l'occasion de se répandre. Et très souvent, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que l'Église a progressé géographiquement, territorialement parlant, à travers des moments difficiles de persécution. Si l'Église a quitté Jérusalem pour aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est très souvent à travers des moments de persécution. Donc ce qui nous semblait à la base être quelque chose de totalement malheureux, dans le plan divin de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, c'était aussi l'occasion de donner à son Église une expansion. Et voilà pourquoi se glorifier de ses afflictions, c'est aussi l'occasion de réjouissance à la pensée des résultats que suscite l'affliction. Comme on l'a dit il y a quelques instants, ce n'est pas toujours des constats négatifs, mais Dieu se sert de l'affliction pour parfaire son œuvre en nous. Et mardi, on voyait donc que l'affliction produisait quelque chose, la persévérance. Une persévérance qui se manifeste à travers la patience dans l'affliction. Une patience, c'est être capable d'endurer le temps. Une résilience, donc une capacité à endurer la douleur. Et aussi, l'affliction, quand elle produit la persévérance, ça produit chez nous une stabilité, une inébranlabilité. C'est un mot compliqué. Inébranlabilité. Le fait d'être inébranlable. Donc, le fait de ne pas être secoué par les vents, secoué par la mer qui s'agite, mais de rester calme, posé, ça vient aussi avec la persévérance. La persévérance, d'un autre côté, comme on l'a vu hier, amène la victoire dans l'épreuve. Et lorsqu'on a étudié ce terme « victoire dans l'épreuve », on a bien entendu expliquer que, au-delà du fait simplement de poser des actions qui nous amènent à la victoire, et au-delà de la victoire en soi, ce terme « victoire dans l'épreuve », qui est en grec le terme « dokimé », veut plutôt parler de l'attitude victorieuse qui devrait habiter le croyant. C'est cette qualité ou cet état d'être, état d'esprit du vainqueur, celui qui, en dépit de l'affliction, se sait déjà vainqueur. L'affliction qui va amener ce caractère tout particulier, ce sera un caractère qui sera éprouvé, un caractère qui aura été jugé comme on juge quelque chose en procès. Donc il y aura non seulement un jugement, il y aura effectivement une exposition des faits, il y aura une exposition du raisonnement qui amène le verdict, et il y aura bien entendu le verdict. Et lorsqu'on parle d'un caractère qui était éprouvé, il est non seulement éprouvé, mais le caractère du chrétien est aussi approuvé. Donc un caractère jugé, un caractère approuvé et un spécimen de valeur éprouvée. J'aimais le terme spécimen sur le fait que c'est une spécificité à un individu, une spécificité à un cas particulier. Donc notre caractère, lorsqu'il est éprouvé et approuvé et modelé à travers la persévérance et l'affliction, ce n'est pas un caractère qui se compare à quelqu'un d'autre. C'est notre propre caractère, c'est notre propre attitude, c'est notre propre personne. Et sur ce caractère, sur cette attitude, sur cette personne que nous sommes, Dieu a des plans, Dieu a des projets et Dieu a des attentes. Donc Dieu n'attend pas à ce que je sois comme mon père, Dieu n'attend pas à ce que je sois comme mes collègues, Dieu s'attend à ce que je sois comme moi-même. Il m'a créé pour être moi-même, et lorsqu'on parle d'un caractère éprouvé et approuvé, c'est donc un caractère qui est dignement celui que j'ai été appelé à être dans le plan créateur de Dieu. Et aujourd'hui, on voit donc la dernière phrase du verset 4, ou le dernier segment de phrase du verset 4 qui nous dit « Et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. » Dans la plupart des bibles que vous avez, c'est tout simplement, le vocable dit simplement « Et cette victoire, l'espérance. » Mais on sait que c'est une certaine énumération que Paul fait dans ces deux versets en disant que premièrement, on se glorifie des afflictions parce que l'affliction produit la persévérance, puis la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit donc l'espérance. Alors encore là, l'attitude victorieuse, un peu comme on le disait hier, la persévérance n'est pas une finalité en soi. et au même titre, parce que la persévérance produisait la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, cette attitude victorieuse, n'est pas une finalité en soi. Pourquoi? Parce que certains peuvent avoir une attitude victorieuse en apparence, mais ne pas avoir l'espérance qui nous est aussi promise. Donc certaines personnes vont adopter un trait de caractère qui est positif, vont avoir une personnalité qui est assez enjouée, mais ce n'est pas parce que je m'excuse, ce n'est pas parce que j'ai cette façade enjouée que nécessairement au plus profond de mon cœur, je suis effectivement dans l'espérance. Donc là encore, la victoire et le caractère victorieux n'est pas une fin. La fin, le point final de cette progression qu'on fait depuis l'affliction, en réalisant que l'affliction n'est pas mauvaise en soi, mais qu'elle produit de bonnes choses, qu'elle produit la persévérance. La persévérance nous permet d'avoir la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nous permet d'avoir l'espérance. Le terme espérance, puisque victoire dans l'épreuve, on l'a déjà vu, et produire, on l'a déjà vu à travers les derniers jours. Donc ici, lorsqu'on parle de l'espérance, c'est le terme elpis. Elpis, E-L-P-I-S. Donc en grec, elpis, E-L-P-I-S. Et j'ai fait ressortir 5 connotations à ce terme grec par rapport à l'espérance. Alors, qu'est-ce que l'espérance? Mais l'espérance, c'est d'abord avoir une attitude qui attend le bien et non l'affliction. Lorsque j'ai de l'espérance, ce vers quoi je me porte, ce que j'anticipe, n'est pas l'affliction. Trop de gens vivent leur vie en attendant que le ciel leur tombe sur la tête. Et là, je parle même des croyants et même des chrétiens. Donc, il y a certaines personnes qui passent leur vie entière à anticiper la prochaine traîtrise qu'ils vont subir, la prochaine affliction qu'ils vont subir, la prochaine trahison qu'ils vont subir, le prochain malheur qui va leur tomber sur le dos, la prochaine maladie qui va les affliger, la prochaine offense qui va leur être faite. Ils sont tout le temps là-dedans. Il y a des croyants qui vont même à l'église en étant convaincus qu'en arrivant à l'église, ils vont obligatoirement, pratiquement, se faire malmener par quelqu'un. Il y a nécessairement quelqu'un à l'église qui va leur faire du mal. Alors, il y a ces gens qui vivent dans cette espèce de crainte perpétuelle, constante, du malheur qui est en train de leur courir après. Ce qui te court après, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veille sur toi. Alors, s'il veille sur toi, les plans qu'il a pour toi, et tu devrais le savoir puisque la parole le dit clairement, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et de bonheur, des projets de réussite, des projets de paix. Alors, si Dieu dit que les projets qu'il a formés pour toi sont de bonnes choses, sont des projets de paix, pourquoi toujours anticiper le mal? Tu vas me dire, mais parce que les gens sont mauvais. Mais là, on tombe dans une autre erreur qu'on fait régulièrement. La Bible nous dit que l'amour ne présume pas du mal. Dans le fameux chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui est un hymne à l'amour, où on nous explique ce qu'est l'amour, il y a une de ces facettes de l'amour qui nous dit clairement, l'amour ne présume pas du mal. Donc, lorsque moi, je suis en train de vivre avec la constante pensée que quelqu'un, quelque part, va me faire mal, que quelqu'un, quelque part, veut me faire mal, quand je suis constamment dans la méfiance, je suis constamment aussi en train de présumer du mal. Je regarde quelqu'un, il s'approche avec des intentions qui sont bonnes ou mauvaises, je ne le sais pas, mais moi, je présume que ses intentions sont mauvaises. Et ce faisant, je fais mal, ce faisant, je pêche. Quand nous présumons du mal, nous péchons. Si nous ne manifestons pas l'amour, c'est donc que nous péchons. Et si dans ce que nous faisons, c'est présumer du mal, ça veut donc dire que je ne suis pas en train de manifester l'amour de Dieu. Donc il y a cette attitude-là qui doit changer chez bon nombre d'entre nous. Ne plus avoir une attente du malheur qui va nous tomber dessus, du ciel qui va se fracasser sur notre crâne, mais avoir cette attente du bien. Suis-je, oui ou non, sous la tutelle de Dieu? Suis-je, oui ou non, sous la protection de Dieu? Est-ce que j'appartiens, oui ou non, à Dieu? Est-ce que j'ai fait de lui mon maître et mon Seigneur? Si j'ai fait de lui mon maître et mon Seigneur, je suis donc là où il me veut. Je suis donc en train de faire ce qu'il veut que je fasse. Je suis donc dans l'attitude qu'il veut que j'aie, s'il est effectivement mon Seigneur. Le grand drame pour nous, c'est de prétendre que Jésus est notre Seigneur, de prétendre qu'il a tous les droits sur notre vie, de prétendre que nous suivons ce qu'il nous a recommandé. Très souvent, on a un sauveur, ou on voudrait avoir un sauveur, mais pas nécessairement un Seigneur. La protection de notre Maître se manifeste dans le fait qu'il soit non seulement notre sauveur, qui nous a pardonné de nos péchés et qui nous destine à la vie éternelle, mais de surcroît ça, qu'il soit aussi notre Seigneur, qui conduit chacun de nos pas. Dieu nous amène donc dans des endroits qui peuvent parfois traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais comme David le disait avec justesse, « Je ne crains aucun mal lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Si je suis en train de faire ce que Dieu veut, si je suis là où Dieu veut que je sois, je suis donc dans sa pleine volonté, alors il change les malédictions en bénédictions. » Alors, une attente, le premier point de l'espérance, c'est que on change notre attitude avec une attente du bien et non une attente de l'affliction. Deuxième point, lorsqu'on parle d'espérance, on parle d'espoir, on parle de joie et non d'une attitude maussade. Je dis parfois, un peu à la blague, mais en même temps, ça devrait être la vérité, avec tout ce que nous avons en Jésus, avec tout ce qui nous est promis en Jésus, le chrétien, le croyant, devrait être l'individu le plus heureux qui soit. Il ne devrait pas y avoir sur terre de gens plus heureux que les croyants, que les chrétiens, parce qu'ils savent qui est leur Seigneur, qui est leur Maître, qui est leur Tout-Puissant. Alors à ce moment-là, l'attitude que nous devrions avoir n'est plus une attitude maussade, une attitude où on est dans la déprime constamment, mais ça devrait être une attitude d'espoir et de joie. Et là encore, je ne parle pas de faire semblant d'être joyeux, je ne dis pas de faire semblant d'avoir espoir, mais c'est de ramener nos pensées, de ramener notre compréhension sur la réalité des choses. Notre Dieu est-il tout-puissant, oui ou non? Alors, s'il est tout-puissant, je dis à mon âme, calme-toi, retourne à ton repos, parce que tu as déjà goûté les bienfaits de Dieu, parce que tu sais qui est Dieu et tu sais qu'il veille sur toi. Alors, mon âme, comme David le disait, je t'ordonne, je te donne ce verbe à l'impératif, retourne à ton repos. Il y a des moments où on doit dire à notre âme, calme-toi ma vieille, où on doit dire à nos émotions, calmez-vous, là, allez vous coucher, vous avez besoin d'un peu de repos, parce que je connais Dieu, il veille sur moi. Donc, attitude qui change dans l'attente du bien et non l'attente de l'affliction, attitude qui change dans le fait d'avoir de l'espoir, de la joie qui émane de nous, et non cette attitude maussade. Lorsqu'on parle d'espérance, on parle aussi d'avoir confiance dans les promesses de Dieu. Avoir confiance dans les promesses de Dieu. Un peu comme je relatais hier l'histoire de l'entraîneur qui monte entre deux rounds dans le coin de son boxeur et qui lui dit « Regarde mon vieux, je ne t'ai pas amené ici pour te perdre. Je t'ai préparé. » On a fait tout ce qui était à faire. Je sais que tu es capable de battre ton adversaire et de gagner. Je t'ai amené ici pour gagner et non pas pour perdre. Alors, avoir confiance dans les promesses de Dieu. Bien entendu, ces promesses-là, il faut encore les ramener dans la justesse de la parole de Dieu. Mais on a une multitude ineffable de promesses qui nous sont faites dans la parole de Dieu. Malheureusement, quand il y a une chose qui se passe dans notre vie qui est désagréable, plusieurs d'entre nous, on a tendance à larguer les promesses de Dieu. On a tendance à ne plus garder les yeux sur les promesses qui nous ont été faites, mais de tomber dans l'abattement, dans la déprime, alors que la Bible nous dit, si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la. Si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la, elle est en chemin, elle arrive, elle s'en vient. Donc les promesses de Dieu sont aussi un facteur selon lequel le croyant devrait être rempli de joie, rempli d'espérance. Plus je suis effectivement réfugié dans la parole de Dieu, plus je m'alimente par la parole de Dieu, plus je suis à même d'interpréter les choses qui se passent autour de moi avec davantage de véracité. Au départ, on chemine et dès qu'il se passe quelque chose de menaçant, on entend un bruit, un craquement de brindilles près de nous, puis là on a l'impression que le malheur va nous tomber sur le dos. En marchant et en approfondissant notre connaissance de Dieu et en expérimentant Dieu, on se rend compte qu'il est notre bon berger, celui qui donne sa vie pour nous, celui qui veille à notre protection, à notre bien-être, et qui répand sur nous grâce, bénédiction, miséricorde. Chaque matin, la Bible nous disant que les miséricordes de Dieu et les bénédictions de Dieu ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent à chaque matin. Donc Dieu a des bénédictions pour toi, Dieu a des bénédictions pour moi. L'espérance va me ramener dans cet état où je fais confiance aux promesses de Dieu. Quand je ne fais pas confiance aux promesses de Dieu, en fait, c'est à Dieu que je ne fais pas confiance. Lorsque quelqu'un te promet quelque chose et que tu n'as pas confiance, tu es obligé de dire « j'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en cette personne, elle m'a fait la promesse, mais je suis convaincu qu'elle va me jouer dans le dos, je suis convaincu qu'elle va m'abandonner. » Lorsqu'on parle de Dieu, tu ne peux pas ne pas avoir confiance en celui qui est la vérité, en celui qui dit et la chose s'accomplit. Alors ayons confiance dans les promesses de Dieu. Un quatrième point par rapport à l'espérance, au-delà de la confiance dans les promesses de Dieu, c'est aussi avoir une confiance dans la destinée éternelle qui nous est promise. Une confiance dans la destinée éternelle qui est promise aux pécheurs repentants et graciés. Notre vie nous paraît longue ici-bas sur terre. Lorsque nous passons par les moments difficiles, ça nous semble pénible et très long. Mais foncièrement, qu'est-ce que 2 mois, qu'est-ce que 10 ans, qu'est-ce que même toute une vie terrestre de 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans, qu'est-ce qu'une vie par rapport à l'éternité? Alors qu'est-ce que ce moment? Et Pierre va le dire franchement et avec clarté quand il va dire aux croyants de supporter les petites afflictions, les passagères afflictions qu'on peut avoir ici-bas sur terre, sachant la promesse qui nous est faite, sachant la gloire qui nous attend. Alors nous aussi, effectivement, on doit avoir confiance dans la destinée éternelle qui nous est promise. On doit avoir confiance que nous passons effectivement notre éternité dans la présence merveilleuse, ineffable, remplie de joie, de paix, de félicité avec notre Dieu. Et dernier point pour ce matin, et ça va avec notre promesse d'une destinée éternelle, c'est l'assurance de la véracité de notre salut. L'assurance de la véracité de notre salut. L'assurance que je suis sauvé en Jésus. si je suis passé par les étapes de la nouvelle naissance, si effectivement je suis venu à Jésus en confessant mon état de pécheur, si je suis venu à Jésus en reconnaissant qu'il n'y avait d'autre sauveur possible que lui, et si j'ai compris que sa mort et sa résurrection à la croix étaient pour mon salut. Si j'ai compris cela et que j'ai fait de Jésus, non seulement en acceptant son salut, mon sauveur, mais que je fais de lui le maître absolu de mon existence en tant que Seigneur. Encore là, c'est un terme, comme on l'a dit tout à l'heure, que plusieurs semblent omettre. On veut un sauveur, mais très souvent on veut rester Seigneur de notre propre vie. Mais si effectivement on remet les rênes de notre existence à notre Créateur, au Seigneur Jésus, si on lui remet la maîtrise de notre vie, la Bible nous dit que nous sommes sauvés. Donc à un moment donné, il nous faut arriver à cette conclusion. Il nous faut nous baser sur ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui croira et qui persévérera sera sauvé. Et la croyance n'est pas juste une chose intellectuelle dans la pensée biblique. La croyance implique des actions, un peu comme la foi implique des actions. La croyance en Jésus implique des actions, et premièrement, de faire de Jésus notre maître et notre Seigneur absolu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu effectivement que l'attitude victorieuse n'est pas une fin en soi, que ça doit aller plus loin que ça, parce que certaines personnes vont tout simplement afficher bien de la joie, mais à l'intérieur, les choses sont en train de s'écrouler, voire ils sont rongés par de l'inquiétude. La Bible nous dit que cette attitude victorieuse va produire l'espérance. Et l'espérance, c'est quoi? C'est l'attente du bien et non du mal. Alors, tu vas dire ce matin à ton âme que tu n'es pas sous la malédiction du diable, mais que tu es sous la bénédiction de Dieu, sous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, et que les plans et les projets qu'il a formulés pour toi sont des projets de paix, de réussite, de bonheur, de joie. Lorsqu'on parle d'espérance, c'est donc de l'espoir, de la joie, au lieu de l'attitude maussade. Je ne sais pas comment on pourrait te caractériser, comment on pourrait te décrire habituellement, mais j'espère effectivement que tu peux prier ce matin et demander à Dieu, « Seigneur, ravive la joie de ton salut en moi. Seigneur, ramène-moi à cette étape euphorique du salut que j'ai connu en toi. » La confiance dans les promesses de Dieu fait partie prenante ou est partie prenante de l'espérance. Avoir confiance en qui m'a fait les promesses, confiance qu'il n'est pas un homme pour mentir. Confiance dans la destinée éternelle qui m'est promise, donc une destinée, une éternité à passer dans la douce présence de mon Seigneur, et finalement avoir l'assurance ineffable, l'assurance irrépressible, l'assurance inébranlable de mon salut. Jésus est mort pour mon péché, il est mon maître, il est mon Seigneur. Je suis sauvé. Et cela amène la paix dans les cœurs. Alors prions ce matin. Seigneur, encore une fois, quel riche enseignement tu nous donnes aujourd'hui pour que nos attitudes, nos caractères changent, pour notre façon, que notre façon d'être soit modifiée en nous rappelant, en nous souvenant ce que tu as fait pour nous. Seigneur, on veut céder ou on veut abandonner cette attitude maussade qui s'empare trop souvent de nous. Cette attitude où on soupçonne un peu tout le monde autour de nous, on a crainte que tout le monde ait des poignards à nous planter dans le dos, on fait attention à tout le monde. On sait, Seigneur, que c'est un péché, parce que l'amour ne présume pas du mal. Seigneur, change-nous. Seigneur, travaille dans nos cœurs. Que nous puissions effectivement abandonner la méfiance pour adopter l'espérance. Que nous puissions laisser tomber toute cette attitude qui ne voit que le mal s'amonceler, qui ne voit que la menace, qui s'amoncelle sur nous pour adopter la joie, la paix qui vient en toi. Merci Seigneur pour cet espoir, pour cette joie. Merci Seigneur pour tes promesses que tu renouvelles encore dans nos pensées aujourd'hui. Promesses de joie, de paix, de réussite, de bonheur, de grâce en ta présence. Merci Seigneur pour cette destinée éternelle à laquelle tu nous convies, une vie éternelle passée en ta présence. Et merci Seigneur pour l'assurance de mon salut. Je n'ai plus à vivre en pensant, suis-je assez bon pour Dieu? Suis-je lavé correctement? Est-ce que je ne suis pas en train de me destiner vers la condamnation éternelle? Ce que tu as accompli pour la croix était parfaitement suffisant pour laver, pour purifier, pour sanctifier le pécheur que je suis et pour faire de lui un pécheur gracié et racheté et sauvé. Alors merci Seigneur, je proclame le salut dans ma vie, puisque tu en es non seulement le Sauveur, mais tu en es aussi le Seigneur. Je maintiens ta position de maître absolu sur mon existence. Je proclame une fois de plus ton statut de Seigneur sur ma vie, Seigneur dans mes décisions, Seigneur dans mes orientations, Seigneur dans la façon dont je mène ma vie, Seigneur sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, Seigneur sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur. Tu es mon Seigneur et c'est dans ce nom de notre Seigneur que nous avons prié, le nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. J'espère que vous avez été bénis. Deux petits rappels. On a donc rendez-vous demain deux fois, le matin et le soir, une journée de jeûne et de prière, donc pour de l'intercession. 8h le matin, 8h30 demain matin, 19h demain soir, première annonce, deuxième annonce. Il faut vous inscrire pour l'assemblée de dimanche pour y assister en présentiel. Donc pour ce faire, vous écrivez un courriel à l'église ou vous nous appelez au numéro de l'église et vous laissez un message. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous dans l'espérance qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.